Actualité avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons ensemble de la reconstruction de la Centrafrique, d'autant que le pays ne parvient pas à tourner la page des violences après les 3 années de crise intercommunautaire. Une grande partie du pays est encore sous le contrôle des groupes armés. L'économie est dévastée. L'administration est d'ailleurs quasi inexistante. Bref, tout est à reconstruire en Centrafrique. Et c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui même, le président Touadéra va s'adresser aux bailleurs de fonds réunis à Bruxelles pour tenter de mobiliser 3 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Toute la question, évidemment, est de savoir s'il sera entendu. Alors, qu'attendez-vous, justement, de cette conférence internationale sur la Centrafrique? Comment redresser le pays? Vous continuez à nous appeler à Paris. Nous vous donnerons la parole dans 30 minutes. 33 9 693 693 70 et vos réactions également sur les réseaux sociaux, vos témoignages sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, vos questions à la rédaction d'RFI. On va commencer avec Habib. Habib qui nous appelle du Cameroun. Vous êtes à Yaoundé. Bonjour Habib.
Bonjour Juan. Bonjour les étudiants de RFI.
Vous avez des questions sur la bataille de Mossoul en Irak?
Ça fait déjà un mois que l'offensive contre l'organisation État islamique en Irak a commencé. Malgré les difficultés, j'aimerais savoir quelles sont les avancées sur le terrain. Y a-t-il des arrestations? Quel est le sort réservé aux djihadistes?
Ah, bonne question, effectivement. Sami Bourlifa était sur le terrain il y a encore 2 semaines. Bonjour Sami.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international d'RFI. Je le disais, vous étiez sur le terrain au sud et à l'est de Mossoul. Vous avez vécu la première phase de cette bataille de Mossoul. Puis il faut rappeler aux auditeurs que cette bataille se déroule en 2 phases. La première, elle a été, on va dire, facile pour les forces irakiennes.
Oui, en fait, les forces irakiennes ont été eux-mêmes surprises en fait par la facilité par laquelle donc elles ont pu avancer sur le terrain. Donc la première phase, c'était, rappelons-le, c'était la phase de la reconquête des villages et des localités qui se trouvent tout autour de Mossoul, donc au sud, à l'est, au nord, à l'ouest un peu moins, on expliquera pourquoi. Donc cette phase, en fait, a été une phase de reconquête très très rapide parce que un officier par exemple de l'armée irakienne me racontait qu'ils avaient tablé sur une 15 jours par exemple au sud pour reconquérir certains villages et certaines localités. Ça s'est fait en moitié moins de temps, en 5 jours à peine parfois ils avaient repris ces villages. Pourquoi? Parce que en fait durant cette phase il y a eu très peu de corps à corps. En fait c'était pas des combats frontaux entre l'armée irakienne d'un côté et les djihadistes de l'autre. Les djihadistes en fait durant cette phase là ont refusé de combattre. Leur stratégie était d'envoyer des véhicules piégés, donc des véhicules kamikazes, les précipiter contre les lignes de l'armée irakienne. C'était aussi piéger les maisons dans les villages, en fait, qui allaient être reconquis, et aussi poser des mines sur la plupart des routes qui mènent vers Mossoul. Donc voilà pour cette première phase. D'un côté, on avait ces djihadistes qui attaquaient via leurs véhicules piégés. De l'autre côté, l'armée irakienne, en fait, qui ripostait à l'aide de son artillerie. Très peu de combats frontaux. Voilà pour cette première phase. La seconde phase, par contre, a été beaucoup plus compliquée. C'est une autre paire de manches. Pourquoi? Parce que d'un côté, la ville, en fait, cette phase, c'était la phase de l'entrée dans la ville de Mossoul. Ça s'est fait début novembre. C'est une phase compliquée parce que il y a beaucoup de civils dans la ville de Mossoul. On parle plus d'un million d'habitants. Et donc, ça a été compliqué pour l'armée d'avancer dans la ville de Mossoul.
En tout cas, aujourd'hui, on estime qu'un quart de Mossoul est passé sous le contrôle des forces irakiennes.
C'est ce qu'on dit. On dit, voilà, on parle d'un quart de la ville. Enfin, voilà, ça nous laisse encore beaucoup de chemin à parcourir avant une libération totale de la ville de Mossoul.
D'autant que la résistance, on le voit bien, elle est acharnée.
Elle est acharnée et il faut le rappeler. Donc, au moment où l'armée irakienne entre dans Mossoul, début novembre, il y a ce fameux appel, l'appel de Abou Bakr el-Baghdadi, donc chef de l'organisation État islamique, qui demande aux djihadistes, à ses troupes, de résister au maximum. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est leur dernier fief en Irak, c'est leur bastion. Et là où on aurait pu croire, en fait, parce que c'est ça, le fameux front de l'Ouest qui était resté ouvert. Donc, l'ennemi est toujours imprévisible. Donc, l'armée irakienne avait très probablement tablé, donc, compter sur une éventuelle fuite des djihadistes par c'est-à-dire le front ouest vers la Syrie.
Il est resté ouvert.
Ouais. Donc c'était les forces du Hashd al-Sha'bi, donc la mobilisation populaire irakienne qui était censée le sécuriser. Les troupes ont tardé en fait à fermer ce front par l'ouest. Donc on comptait sur une éventuelle fuite des djihadistes par l'ouest. C'est le contraire qui s'est produit. Les chefs sont partis par l'ouest, mais il y a eu beaucoup de combattants qui sont arrivés de Syrie et qui sont venus garnir donc les troupes de l'organisation État islamique. Il y a 2 semaines à peu près, on avait parlé de 70 véhicules qui avaient quitté Raqqa pour venir assister les djihadistes qui étaient déjà dans Mossoul. Il y en a eu 5 qui ont été interceptés, 12 qui ont été détruits, mais beaucoup de véhicules sont passés. Ils ne sont pas passés comme on le voyait auparavant sur les vidéos en colonne de blindés, donc c'était vraiment un mouvement dispersé à travers le désert et ils sont arrivés jusqu'à Mossoul.
Alors vous parliez justement de djihadistes interceptés, Habib nous demandait s'ils étaient arrêtés et s'ils étaient nombreux aujourd'hui à être entre les mains des forces irakiennes. Il faut quand même rappeler aux auditeurs que le principe même du djihadiste, c'est de mourir au combat, c'est de chercher
ce qu'il croit être le martyr. Donc très peu d'arrestations. Néanmoins, il y en a. Donc j'avais rencontré les combattants de la Golden Division, qui est la troupe d'élite de l'armée irakienne, et eux avaient procédé à plusieurs arrestations en combattant. En fait, ils avaient pu arrêter plusieurs djihadistes de différentes nationalités d'ailleurs, mais parmi lesquels beaucoup de djihadistes européens. Mais eux, ce qu'ils disent, donc ces combattants de la Golden Division, c'est donc voilà, très rapidement pour finir, ils disent nous, notre travail, c'est le combat. Une fois qu'il y a eu des arrestations, les djihadistes sont directement remis aux services de renseignement irakiens et les services de renseignement irakiens, en fait, pour eux, les djihadistes arrêtés sont une véritable mine d'informations. Ils permettent, en fait, d'avoir les détails et faciliter l'avancée sur le terrain.
Merci beaucoup, Sami Bourkhalifa, pour votre expertise et votre témoignage de retour donc de Mossoul.
Merci
Habib,
à vous.
Bonne journée à Yaoundé. Il est 9h17 à Paris. Vous nous appelez. Toutes vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Une question maintenant de politique française à quelques heures du dernier débat télévisé avant le premier tour de la primaire de la droite et du centre. Bonjour Jocelyn.
Bonjour.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Merci. Ce dimanche aura lieu le premier tour de la primaire de la droite et du centre. Alors, pourquoi les résultats seraient-ils notamment pour Alain Juppé, parti pourtant favori dès le début de la primaire? Et comment expliquer la remontée au sondage de François Fillon? Merci.
Ah, François Fillon qui a le vent en poupe, hein. Il était quatrième dans les intentions de vote il y a quelques semaines. Il est passé troisième ex aequo, il est troisième et on le dit même peut-être au second tour, on verra ça. Julien Chavanne, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, vous êtes journaliste au service politique d'RFI. Toutes les études, les enquêtes d'opinion vont dans le même sens. Juppé est en tête, suivi de Nicolas Sarkozy et de Fillon. On voit bien que les écarts se resserrent entre les troisièmes.
Hein. Oui, et plus que la baisse d'Alain Juppé, c'est la montée de François Fillon qui est remarquable. Depuis des semaines, son entourage nous promet qu'il sera la surprise de cette primaire. On disait la même chose dans le camp de Bruno Le Maire. Eh bien, c'est l'ancien chef de gouvernement qu'il est bel et bien devenu, cette surprise. En quelques jours, il a gagné entre 7 et 10 points dans les sondages. Il talonne Nicolas Sarkozy et il distance Bruno Le Maire. On le donne même gagnant dans un sondage au second tour face à Alain Juppé et face à Nicolas Sarkozy. C'est une première dans cette campagne. Une dynamique parfaite pour le candidat. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant le premier tour.
Alors pourquoi une telle remontée?
Eh bien parce que les sondages et les médias évidemment rêvaient, voulaient d'un duel Juppé-Sarkozy. Ça c'est la version du camp Fillon. Autrement dit, comme Donald Trump aux États-Unis, c'est le candidat que les journalistes et les sondeurs n'ont pas vu, n'ont pas voulu voir venir. Concrètement, j'y vois deux explications. D'abord, François Fillon, il profite de la médiatisation de la primaire. Depuis son passage sur France 2 dans l'émission politique, il enchaîne avec les deux débats, vous vous souvenez, sur TF1 et sur BFM. Il a été bon, sérieux, il a refusé de jouer le jeu des petites phrases.
On a souvent dit qu'il était le vainqueur justement de ces débats télévisés.
Oui, parce qu'il est resté au-dessus, il est resté dans son couloir, comme on dit, un peu comme Alain Juppé. Et ça paie aujourd'hui. Deuxième raison, on peut aussi penser que les Français s'intéressent plus à cette primaire aujourd'hui, dans les derniers jours, ce qui explique aussi peut-être une sorte de rééquilibrage dans les enquêtes d'opinion. Et comme c'est souvent le cas en politique, les premiers à critiquer les mauvais sondages sont les premiers à s'en servir quand ils deviennent bons. Les fillonistes n'y échappent pas.
Évidemment. François Fillon peut-il bousculer le duel entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy? C'est évidemment la question que tout le monde se pose à 3 jours du premier tour.
Et c'est évidemment l'objectif de François Fillon, bousculer ce duel qu'on nous vend depuis des mois. Rien n'est fait encore. Si François Fillon remonte, si les écarts se resserrent, l'ordre d'arrivée, lui, ne change pas. en première position, Alain Juppé en deuxième, Nicolas Sarkozy, troisième, François Fillon. La crainte chez lui, c'est d'être victime d'un vote par calcul, c'est-à-dire que les électeurs voteraient par stratégie pour éliminer soit Nicolas Sarkozy, soit Alain Juppé dès le premier tour, car les fillonistes, l'électorat filloniste peut aller d'un côté comme de l'autre. Du coup, François Fillon appelle ses troupes à voter par conviction. Mais c'est vrai qu'en tant que troisième homme, il pourrait devenir ce qu'on appelle le faiseur de roi de cette élection. Ses électeurs pourraient faire basculer le scrutin d'un candidat à l'autre. Lui, en tout cas, est persuadé d'être au second tour.
Oui, et c'est donc porté par cette dynamique que François Fillon va participer ce soir au troisième débat de la primaire. Nul doute qu'il fera l'objet de beaucoup de critiques de la part de ses camarades des Républicains.
Oui, et puis c'est un débat crucial. À trois jours du premier tour, les images vont rester en tête des Français. C'est la dernière fois que les sept candidats seront côte à côte sur une même scène. Et la tension est forte, évidemment. Pas question de faire une sortie de route aussi près du scrutin. Tous anticipent un résultat serré dimanche. Autre incertitude, quel sera l'impact de la candidature hier d'Emmanuel Macron à la présidentielle sur le vote des centristes ou des déçus du hollandisme? Évidemment, on regarde du côté d'Alain Juppé. Lui a prévu d'être plus incisif. Et puis, comme vous le disiez, François Fillon, lui, s'apprête à prendre un peu plus de coups ce soir pour ce dernier débat.
On suivra ça, évidemment. Et puis, sachez que dimanche soir, après le vote, RFI vous proposera une soirée spéciale ainsi que lundi matin pour décortiquer, analyser les résultats du premier tour de la primaire de droite et du centre. Merci Julien Chavanne, bonne journée à vous. Jocelyn, merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous continuez à nous appeler, vous nous appelez également, n'oubliez pas, le débat dans 20 minutes maintenant sur la reconstruction de la Centrafrique. Le président Touadéra se rend à Bruxelles. Il va tenter de mobiliser 3 milliards de dollars auprès de la communauté internationale pour reconstruire son pays. 33 9 693 693 70. Encore et toujours des questions sur Donald Trump. Bonjour Eugène.
Bonjour Anne Gomez.
Vous êtes à Lomé, au Togo, on vous écoute.
Oui. Donald Trump est élu sur un programme isolationniste. Je voulais savoir que redoutent les dirigeants européens à l'histoire de Donald Trump, puis à quoi l'élection de Donald Trump va changer les relations entre les États-Unis et l'Union européenne.
Alors, les inquiétudes auprès des dirigeants européens, elles sont nombreuses. Hein. C'est vrai que les motifs d'interrogation ne manquent pas. Quentin Dickinson, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Eugène et bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant des RFI à Bruxelles, où se trouve le siège de la Commission européenne et où plane depuis maintenant une semaine l'ombre de Donald Trump. Pourquoi les Européens sont-ils inquiets ?
Vous savez, ce que redoutent tout particulièrement les dirigeants européens, tout comme d'ailleurs les milieux économiques, y compris aux États-Unis, eh bien, c'est l'incertitude, c'est le flou, c'est la difficulté absolue de bien faire la part de l'hyperbole électorale et des intentions véritables du président élu américain. Plus précisément, les Européens attendent Donald Trump sur le réchauffement climatique, sur l'Europe, sur l'Alliance Atlantique, sur les accords commerciaux internationaux, sur les relations avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie, excusez du peu. Et pour l'heure, l'on ne dispose pas ici de sources officielles américaines, ni de la part de l'entourage de M. Trump, du moindre élément concret quant à la future politique américaine dans ces domaines, tous d'importance primordiale pour les grands équilibres mondiaux. Bien entendu, on peut essayer de se faire une idée en examinant le parcours des conseillers qui assurent, autour de Donald Trump, la transition avec l'équipe Obama, des conseillers dont bon nombre sont appelés évidemment à occuper les plus hautes fonctions dans l'appareil d'État américain. Cependant, dire que les dirigeants européens trouvent dans cet exercice des motifs propres à les rassurer serait évidemment contraire à la vérité. Le rôle confié actuellement à la quasi-totalité de la famille Trump, à commencer par le gendre du président élu, paraît ici disproportionné et imprudent. De même, la promotion...
Ah. Voilà, le problème de satellite peut-être entre Paris, de réseau satellite entre Paris et Bruxelles. On va peut-être récupérer Quentin Dickinson dans un instant qui nous expliquait pourquoi les Européens étaient inquiets. D'ailleurs, ils sont à tel point inquiets que dimanche dernier, donc 4 jours après l'élection de Donald Trump, une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne avait été convoquée par la chef de la diplomatie de l'Union européenne. Quentin Dickinson est de retour ?
Oui, absolument. Absolument.
Parfait. Donc, vous nous disiez que la famille Trump, dans la nouvelle équipe de l'administration américaine, suscitait des inquiétudes.
Oui, absolument. Et de même, la promotion à des postes clés de climato-sceptiques et de militants publiquement convaincus de la suprématie de ce qu'ils appellent la race blanche ne laisse évidemment pas d'inquiéter ici à Bruxelles.
Merci, Quentin, d'avoir été avec nous en direct donc de Bruxelles, correspondant permanent d'RFI. La dernière question du jour, elle portera encore sur Donald Trump. Bonjour Bintou.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes dans la province orientale à Durba, en République démocratique du Congo. On vous écoute.
Merci beaucoup. Donald Trump est en train de former son équipe de transition. Surtout, je voudrais savoir pourquoi ses nouveaux collaborateurs font polémique.
Ah, les nouveaux collaborateurs. Il en a nommé deux hein, au sein de son futur cabinet, deux postes clés à la Maison-Blanche. Jean-Éric Brahana, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 2, Panthéon Assas, spécialiste des États-Unis. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Je cite notamment celui publié aux éditions de Passy, « Qui veut la peau du Parti républicain ? L'incroyable Donald Trump ». Deux nominations qui font polémique et surtout celle de son conseiller stratégique. C'est celle-là qui suscite le plus d'inquiétude.
Oui, parce que Stephen Bannon, puisqu'il s'agit de lui, est un homme un petit peu sulfureux. Il était dirigeant jusqu'à maintenant d'un magazine, d'un organe de presse, Breitbart, qui est plutôt très très à droite, on va dire ça pour faire simple, avec des propos pas toujours acceptables sur les femmes, sur certaines minorités, et est plutôt très aimé de groupes comme le Ku Klux Klan par exemple.
Oui, c'est un site qui a publié de nombreux articles racistes, islamophobes, anti-immigrants, voilà un site ultra-populiste mais raciste.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle l'alt-right aux États-Unis. Et donc, c'est l'entrée de ce groupe-là de plein pied à la Maison-Blanche.
Oui. Alors, évidemment, on comprend les inquiétudes. En même temps, pourquoi nommer cette personnalité alors qu'il n'a aucune expérience du pouvoir ? Quand on regarde son curriculum vitae, on voit qu'il a travaillé dans l'armée, qu'il a été banquier d'affaires, producteur de films à Hollywood. Quel rapport avec la politique et pourquoi est-il nommé à un poste aussi stratégique ?
Ah bah écoutez, j'ai envie de vous dire, et je réponds à Bintou en même temps, gardez cette question pour les jours qui vont venir, vous allez la poser souvent, puisqu'à mon avis, dans les prochaines propositions de ministres, il va y en avoir d'autres du même type, où vous allez vous demander pourquoi ils sont nommés en n'ayant aucune expérience du pouvoir. Mais Donald Trump l'a dit pendant sa campagne, il veut nettoyer le bourbier de Washington, ces politiciens professionnels qui s'enrichissent et qui se servent avant de servir le pays. En tout cas, c'est sa campagne, donc il va essayer de démontrer ça en nommant des gens qui n'appartiennent pas au sérail de Washington et vous montrer que même ces gens-là peuvent réussir à la tête de l'État.
Ouais. Bintou, vous avez une autre question.
Oui, Juan. La deuxième question, dans cette équipe, il y a inclus trois de ses enfants. Est-ce qu'il pourrait prendre part au gouvernement ?
Alors, quand vous parlez de l'équipe, c'est l'équipe de transition. Hein, c'est celle qui est chargée de mettre en place la future administration. Effectivement, trois de ses enfants, Jean-Éric Branaha, font partie de cette équipe. Ivanka, Eric et Donald Trump, et Donald Junior Trump. Il y a une chance de les voir au gouvernement ou pas ?
Oui, et puis rajouter, comme le disait Quentin tout à l'heure, très justement, son gendre, hein, Jared Kushner, qui fait également partie de cette équipe. Donc on a la famille bien élargie, effectivement, autour de lui. D'abord, on remarquera que c'est un peu inquiétant, hein, puisque Bintou se trouve en Afrique. C'est malheureusement un continent où on a vu ça souvent, des chefs d'État qui s'entourent de la famille parce qu'ils ne font plus confiance à personne et qu'ils estiment que les seuls êtres loyaux qu'ils ont autour d'eux, c'est le reste de la famille. Et Shakespeare a beaucoup développé ça dans Macbeth en expliquant qu'à la fin, tout le monde s'entretue. Donc on peut se dire que c'est pas un bon signe qui est envoyé. Maintenant, pour la question précise de droite, savoir s'ils peuvent être au gouvernement, la réponse est en deux parties. D'abord, il est prévu par les lois américaines qu'on ne peut pas nommer quelqu'un de sa famille dans un poste de fonctionnaire, donc dans les agences gouvernementales. En revanche, rien n'interdit de nommer quelqu'un comme ministre, comme ambassadeur, ou dans le comité exécutif du président, qui sont cette petite équipe autour de lui. Oui. Et c'est d'ailleurs là où on dit que Jared Kushner risque de se retrouver.
Oui, et puis on dit même que la première femme de Donald Trump pourrait bien devenir ambassadrice, notamment à Prague. En tout cas, c'est le poste qu'elle réclame à son ex-mari. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Éric Brahana. 9h30 ici à Paris. Restez avec nous.
RFI est partenaire.